Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleecho.com/podcast. Allez, c'est parti. Olivier Delamarche, bonjour.
Bonjour Richard.
Merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté de venir. Parce qu'on va se livrer à un exercice un peu différent de ce que tu as l'habitude de faire. Alors déjà, pour te présenter, pour ceux qui connaissent pas, Olivier Delamarche, il est passé par tout un tas de phases dans la finance et l'économie. Donc analyste, trader, chroniqueur sur BFM, maintenant tu as ton émission de télé sur RT. On t'a aussi, tes clients ont l'honneur de te voir dans le family office, donc on va expliquer tout ce que c'est que ces métiers. Comment ils fonctionnent, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et à quoi ça sert pas.
Ça sert pas grand-chose.
Oui, et surtout, on va expliquer comment, parce que t'as un parcours extraordinaire, faut le dire. Il sort de l'ordinaire. Tout le monde ne fait pas des millions en mode Golden Boy à Paris et après devenir une star de la télé, de la finance. Il y a un peu de chemin derrière. Il y a un vécu. Il y a un bonhomme. Et surtout, tu n'es pas. T'es assez différent des autres personnes de ton profil parce que tu viens pas de Paris. Tu viens pas de la capitale. Tu viens du Jura.
Oh non, je me suis installé récemment dans le Jura, donc
dans une maison familiale.
Oui, dans une maison familiale, mais je suis né à Paris, à Boulogne-Billancourt, et j'ai passé toute ma vie à Paris. Alors j'allais passer mes vacances d'été dans le Jura. Vu qu'on n'avait pas de chauffage, on n'allait pas en hiver, et donc j'allais passer mes vacances dans le Jura, et c'est là que j'ai appris à traire une vache, entre autres.
Il n'y a pas beaucoup de traders qui savent traire les vaches. Il n'y a pas beaucoup de traders qui savent traire les vaches.
Eh ben, c'est dommage.
On est bien d'accord.
C'est bien dommage. Bon, tu me diras, ils ont l'habitude de traire autre chose. Ils font de la traite de rendement et de plus-value, mais c'est presque pareil au final.
Alors, tu as commencé chez Pinaton,
ouais.
On peut dire ça, donc analyste là-bas.
Ouais, en fait.
C'est quoi,
J'étais pas fait pour ça parce que.
C'est quoi un analyste?
J'ai commencé à faire deux premières années de médecine. Et comme je faisais surtout des travaux pratiques plutôt que d'apprendre mes cours de première année, ouais, des travaux pratiques d'anatomie. Et en fait, évidemment, ça marche pas. Faut le savoir. Donc, si tu bosses pas en première année de médecine, ça fonctionne pas.
Ouais, donc, t'as fait deux premières années de médecine.
J'ai fait deux premières années. La première fois, je suis arrivé juste derrière le dernier prix. Ils en prenaient 200, je crois. Je suis arrivé 201 ou 202. Donc, ça a pas marché. Et puis, j'ai recommencé. Puis alors là. Je me suis complètement vautré la deuxième fois et donc j'ai fait un truc qui faisait de la gestion du droit, de l'économie, etc.
École de commerce.
Ouais, lycée SBG. Et puis j'ai passé en parallèle un DECS, mais je l'ai passé que partiellement parce que j'avais pas une âme de comptable.
Alors c'est quoi un DECS?
J'ai eu un diplôme d'expertise comptable en fait.
Et, ça te va bien, j'imagine bien.
Ouais. Pas vraiment, donc.
Avec une calculette derrière tes lunettes.
J'ai pas prolongé. Et puis, comme beaucoup de gens en bourse, je suis arrivé à la bourse tout à fait par hasard. Cherchais un stage. J'étais dans une soirée. Je suis tombé à côté d'un gars qui m'a dit. Oh bah écoute, moi je travaille sur le Matif chez Pinaton.
Alors c'est quoi le Matif?
Le Matif, c'était le contrat à terme obligataire et donc je travaille sur le Matif et je travaille chez Pinaton. Tu devrais envoyer un CV là-bas. Alors j'ai envoyé un CV et puis je suis rentré en tant que stagiaire et comme j'ai trouvé ça plus sympa que de faire un stage en expertise comptable, je suis resté. Je suis resté. Et puis en fait, ils m'ont fait, j'ai fait ma dernière année à mi-temps en travaillant. Et là, je suis rentré comme analyste financier. Et puis,
alors c'est quoi un analyste financier?
Oh ben c'est un type qui prend des dossiers sur des valeurs et puis qui étudie la valeur et qui dit acheter, vendre, acheter avec tel espoir de gain, etc. Donc on fait des dossiers sur les valeurs cotées et puis on donne ça aux vendeurs hein, qui appellent leurs clients et qui leur disent ben, j'ai une bonne idée, faut acheter du Peugeot, faut vendre du Renault, faut etc. Et alors j'ai fait ça un moment et puis après ils m'ont proposé de passer à la table.
Et là, que t'appelles la table?
Alors la table de négo et de trading. Donc là t'as deux métiers en fait. T'as un premier métier qui consiste à être ce qu'on appelle des sales, c'est-à-dire des gens qui ont un portefeuille de clients, qui sont des institutionnels. Ça peut être un banquier, ça peut être un assureur, ça peut être une grosse société de gestion, etc. Et tu les appelles en leur donnant des idées, et eux te passent un ordre d'acheter, je sais pas moi, 10 000 LVMH, d'accord. Et toi, tu te payes en prenant un courtage dessus, des frais d'achat et de vente. Et donc, tu as un portefeuille de clients comme ça que tu manages toute l'année en leur donnant des conseils d'achat et de vente sur le marché sur certaines valeurs.
Donc, c'est des clients, parce qu'en fait, quand tu étais analyste, tu faisais tes rapports, tu les envoies au vendeur qui, lui, va faire son… Et à la table, tu es en direct avec le client. Voilà. Et du coup, c'est toujours le métier d'analyste, mais en lien avec le client directement, quoi.
Oui. Alors, le truc, si tu veux, c'est que j'étais dans des sociétés de bourse qui étaient des petites sociétés de bourse, qui n'étaient pas des sociétés de bourse intégrées à des grosses banques, etc. Et donc où tu avais un peu toutes les casquettes en même temps, c'était ça qui était sympa, c'est-à-dire tu faisais tous les métiers quoi en même temps. Et donc j'ai fait ça pendant quelques années. En même temps, je faisais du trading pour compte propre, donc pour les fonds propres de la maison.
Donc, c'est-à-dire
la société de bourse. Donc tu fais le matin, ils te disent bon ben voilà, on a tant de trésorerie, donc tu fais mumuse avec quoi, pour essayer de faire en sorte le soir de l'en rendre un petit peu plus que le matin. C'est le principe.
C'est de l'intraday quoi. C'est vraiment dans la journée,
c'est
du très court terme.
Quelquefois tu maintenais une position pendant 2 ou 3 jours, ce qui était déjà du très long terme pour des traders, mais en général, c'était quand même plutôt de l'intraday. Alors maintenant, ces métiers-là, ça existe quasiment plus, parce qu'aujourd'hui, c'est des bécanes qui font ça toute la journée à la demi-seconde près. Donc,
mais tu te basais sur quoi pour investir à la journée? Parce que la valeur d'une entreprise, elle varie pas dans la journée.
Moi, si, elle varie. C'est ça l'intérêt, c'est que tu as des fluctuations. Vu que tu n'as plus comme avant une seule cotation dans la journée. Avant, moi, quand j'ai commencé, moi, c'était la fin. J'ai commencé en 87. Tu avais une cotation par jour. Donc, mais aujourd'hui, tu cotes en continu de 9h du matin jusqu'à 17h30 le soir. Et donc, tu as des variations dans la journée qui peuvent être énormes. Si tu as une grosse volatilité parce qu'il se passe un événement, tu peux avoir des variations énormes dans la journée. Donc,
oui, mais sur quoi tu te bases pour arriver à anticiper des variations qui ne reposent sur aucune valeur fondamentale?
Ben, ça pouvait reposer à ce moment-là sur des valeurs, sur des histoires fondamentales. C'est-à-dire que tu vas avoir des valeurs qui, parce que, je sais pas, moi, tout d'un coup, le pétrole s'envole ou le dollar monte ou etc., qui sont sensibles à ça, qui sont sensibles à une annonce sur les taux d'intérêt, qui sont sensibles à des événements macro. Donc tu travailles là-dessus. Et puis après, Tu en as certains qui travaillent sur l'analyse qu'on appelle l'analyse technique. Bon, moi, c'était pas mon truc, mais et puis tu avais. C'était très artisanal ce qu'on faisait. Tu avais des choses quelquefois. Je me souviens, on avait à un moment j'avais su que y aurait un jugement au tribunal d'instance à Paris sur le groupe NASA électronique qui avait implanté des magasins partout, qui avait fait faillite et ça appartenait à un groupe qui s'appelait Fivelille. Et il se trouve que j'apprends qu'il allait y avoir le résultat d'un jugement, tribunal de grande instance de Paris. Et puis je me dis, finalement, est-ce que c'est public? Puis je me renseigne, puis je m'aperçois que c'était public. Et puis j'ai envoyé un copain là-bas. Puis je lui dis, écoute, quand ils rendent le jugement, bah tu prends ton téléphone puis tu nous appelles, quoi. Tu vois?
Le téléphone fixe?
Alors le téléphone, je sais plus si c'était. Non. Je crois que c'était, mais c'était genre Bebop, tu sais, le truc infernal. Mais enfin bon, ça suffisait. Et donc le gars, il va. Évidemment, personne ne l'avait fait. Personne ne l'avait fait. Le gars, il va, il écoute le jugement, ultra défavorable à Fivelille, tu vois, il sort, il nous appelle, puis il nous dit, shortez tout ce que vous voulez, ça va s'effondrer dès que ça va se savoir. On en fait des dizaines de milliers, on vend comme des cochons dessus, et le titre s'écroule, l'info sort, le titre s'écroule encore plus, hein. Et à ce moment-là, on reçoit un petit coup de fil de
l'ANF, l'Autorité des marchés financiers,
qui nous dit délit d'initié. Et j'ai dit ben non, parce que tout le monde pouvait y aller. Et donc allez vous faire voir. Voilà. Et ça s'est bien passé. Et c'était rigolo. Donc tu vois, il y a des choses qu'on pouvait faire. Alors maintenant, évidemment. L'information, elle est beaucoup plus rapide. T'aurais peu de chances d'avoir ce genre de truc, mais c'était amusant parce que tu pouvais, tout en restant parfaitement légal, mais tu pouvais faire des choses rigolotes parce que tes petits camarades de jeu y pensaient pas, parce que voilà.
Donc c'est ça le trading à l'époque. Tu m'as raconté que tu comptais les camions avec un pote.
Mais ça, on avait fait ça aussi. mais tu as plein de choses sur lesquelles tu arrives à faire des grosses variations dans la journée, parce que c'est comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Il y a un moment où tu as ta direction qui te dit vous coupez toutes les positions parce que là t'es en crack complet et il te dit vous liquidez toutes les positions parce que je veux pas les garder sur la nuit, etc. Et même sur la journée parce que ça va continuer à descendre. Donc vous coupez toutes vos positions. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Ben, tu passes un petit coup de fil à tous tes copains et tous tes copains me disent la même chose. Donc qu'est-ce que tu sais? Ben, tu sais qu'au premier cours, à l'ouverture, tu feras le plus bas. Puisque tout le monde aura vendu. Donc tu feras le plus bas. Et donc le jeu à ce moment-là, c'est quoi? Bah, c'est d'acheter massivement sur le premier cours. Et à ce moment-là, tu peux être sûr que tu vas remonter dans les minutes qui suivent. Donc tu auras un effet d'absence de vendeur. Tout le monde aura vendu. Donc tu vois, tu as ce genre de choses qu'il faut que tu connaisses. Alors évidemment, ça ne s'apprend pas tout seul. Tu passes des années à apprendre ce genre de réflexes, etc. Mais,
c'est là que Jean Borjac intervient?
À Jean Borjac, ça a été mon premier patron et c'est un type que j'adore, donc je salue là s'il regarde un jour cette vidéo. Oui, ça a été mon premier patron, ça a été mon mentor, il m'a appris énormément de choses. Alors pas forcément en technique boursière, il y en avait d'autres qui étaient des vieux singes du marché, voilà, il y a lui, c'était plutôt analyse, c'était plutôt macroéconomie. Il m'a appris beaucoup de choses. Et puis de l'autre côté, il y avait des vieux traders qui souvent avaient à peine le certificat d'études, mais je peux te dire que ça cogitait beaucoup plus vite qu'un énarque ou un polytechnicien. Voilà.
Et ça, c'est la période trading. Et
ça,
après,
c'est la
du coup,
période
t'es passé.
trading. Puis après, j'en ai eu marre. Et je trouvais que j'avais fait le tour. Alors c'était grisant quand t'es gamin parce que tu gagnes beaucoup d'argent,
Beaucoup combien, trader?
tu fais jamais la même chose. C'était variable selon les années, mais tu gagnes énormément d'argent. Enfin moi ça m'est arrivé de gagner en une journée ce que mon père médecin faisait en honoraire sur un an. Donc c'est hors de proportion.
Pour toi ou pour la boîte?
Pour moi.
D'accord.
Yeah.
Donc ouais, on va dire un médecin c'est 4 000, ça fait 50 000 à la journée quoi, à peu près en euros d'aujourd'hui.
Non, tu pouvais tu ah en euros
d'aujourd'hui.
Oui,
ouais.
tu peux gagner ça m'est arrivé de faire des journées pour moi à plus de 100 000 balles. Ouais.
Des euros balles.
Des euros balles.
Voilà. Parce que là on est dans les années 90 quand tu fais ça.
On est dans les années 90 jusqu'à 2003. J'ai arrêté en 2003.
Et voilà. En 2003, donc, t'as fait.
En 2003, j'ai dit j'en ai marre, je veux faire autre chose. J'ai fait le tour de la question. C'est bien de gagner beaucoup d'argent, mais ça doit pas être un but dans la vie non plus. Et j'ai monté ma boîte. Voilà.
Donc Platinum.
Ouais. Et
avec Jean Borgex.
Avec Jean Borgex. Et alors au départ, on s'est un peu planté parce que on s'est dit, alors on était gérant ni l'un ni l'autre, d'accord.
Deux analystes, traders.
Un analyste et un trader, un analyste économiste et un trader. Et en fait, on pensait qu'on allait vers notre clientèle, donc les gens qu'on connaissait. Qui étaient des institutionnels et là on a ramé comme pas possible parce que un institutionnel si tu veux ce qu'il veut c'est continuer sa vie tranquillement et donc pas prendre de risques avec une petite société de gestion qui se monte tu vois pour eux c'était ça n'avait aucun intérêt. Et donc on a eu beaucoup de mal pendant un moment à trouver des clients. Et puis après donc 2003, 2005, 2006 jusqu'à 2008. En 2008, on s'en tire très bien parce que dès le début 2007, on écrit des papiers tous les deux en disant on va dans le mur. On va dans le mur alors que la bourse explosait. On nous disait mais non, tout va très bien. Et on disait bah non. Tout va pas bien, on est parti pour une récession aux États-Unis et vu ce qui se passe dans l'immobilier, parce que dès le début de l'année 2007, en fait, 2007, il y a deux boîtes immobilières américaines qui sautent. Alors ça fait pas les gros titres hein, au départ. Puis on se dit ça sent pas bon cette histoire et donc on fout le camp du marché. Et on gère très bien 2008 sur une année qui a été pourrie partout ailleurs quoi. Et en fait c'est en 2009 qu'on transforme un peu Platinum Gestion en une société de gestion là plutôt pour les privés que pour les instits parce que à ce moment-là BFM demande à Jean Borgex de faire un édito quasiment toutes les semaines. Jean était pas très chaud parce que il dit ouais, enfin toutes les semaines ça me casse un peu les pieds, etc. Et donc il propose à BFM, il dit bah moi je travaille avec Olivier et si on alterne une semaine sur deux, là je veux bien le faire. Et donc BFM m'appelle. À ce moment-là, c'était pas filmé, c'était de la radio pure. Et BFM m'appelle, je leur fais une chronique et puis je raccroche et je dis à Jean, on sera jamais réinvité vu ce que je leur ai raconté. Et mais en fait, on a été réinvité. Curieusement, on s'y attendait pas. On a été réinvité et c'est là que ça a commencé. Puis je crois que très vite ils sont passés à la radio filmée, donc à ce qui est devenu BFM Business. Et voilà. Et en fait, ça a bien marché. Et c'est là que j'ai commencé à être un petit peu connu dans le milieu, en tout cas. C'est que je respectais pas les règles. En fait, il y a des règles. Quand tu es invité à la télé ou quand tu fais une conférence avec d'autres petits camarades de jeu, il y a une règle qui est de si tu n'es pas d'accord, si tu veux, tu le fais plutôt à fleur et moucheté, quoi. Tu vois, tu vas pas franco.
On tape doucement. Quoi.
Voilà.
On est entre gens bien, on se fait pas de mal.
Voilà, tu tapes gentiment, tu dis mais oui, je suis tout à fait de votre avis, mon cher confrère, etc. Et donc ça doit bien se passer. Et moi, j'ai pas cette habitude-là, donc j'ai dit les choses. Évidemment, bon, il y en a quelques-uns qui en ont pris un petit peu plein les dents, et puis surtout qui n'ont pas compris au départ, parce qu'ils se sont dit mais pourquoi il est méchant avec moi, pourquoi il me dit que je suis
pourquoi
con,
pourquoi il me tape,
et donc voilà, donc ça a bien marché. Après BFM, on a fait un peu son angle d'attaque, c'est-à-dire que en gros on me donnait de la chair à canon pour que je leur tape dessus parce que ça les faisait rire et que évidemment ils savaient que ça allait faire un peu d'audience. Et puis heureusement, quand j'ai commencé à faire BFM, j'avais dit je me ferai jamais payer par vous, je suis pas votre salarié, je suis pas machin. Donc, le jour où vous me direz ça, tu peux pas dire ça, ou etc., bah, vous irez vous faire voir, quoi. En gros, hein. Donc, et c'est exactement ce qui est arrivé, c'est-à-dire que le rédacteur en chef, M. Soumier de BFM, est venu me voir, c'était au moment des élections de notre cher président, M. Macron. Donc il est venu me voir en me disant mais ça tu peux pas dire ça, mais tu peux pas machin, tu peux pas dire que notre économiste maison raconte des conneries, etc. Et j'ai dit bah si, en fait si, je peux le faire, et tu vas voir d'ailleurs, je vais le faire. Et il m'a dit tu sais pas qui je suis, je lui dis si, t'as une promotion, il paraît que t'es rédacteur en chef, et alors je suis pas ton salarié, donc je fais ce que je veux. Et donc le lendemain des élections de Monsieur Macron, on m'a signifié que c'était pas la peine de revenir.
Après, t'étais pas tout seul, il y a eu toute une charrette.
Après, tous ceux qui, en gros, ouvraient leur gueule.
Il y a eu Charles.
Charles, Gave, il y a eu Olivier Berruyer, il y a eu. Il y en a eu d'autres, hein. Donc, on s'est fait tous.
Remercier.
Sortir de BFM, et puis maintenant, il reste entre eux. De gars qui sont des béni oui-oui, qui disent oui monsieur, bien monsieur, tout de suite monsieur, et donc voilà.
Ça a un lien avec l'arrivée de Patrick Drahi ?
Je pense que ça a un lien avec l'arrivée de Macron, avec l'arrivée de... alors Drahi, il était arrivé un peu avant, oui, ça a un lien.
Pourquoi
c'est
Macron ?
Que, en fait, c'est de l'autocensure. C'est-à-dire que... Ils veulent pas faire de la peine à leur patron parce que c'est quand même lui qui les paye, donc ils veulent pas leur faire de la peine. Et puis voilà, donc il faut être dans l'air du temps, quoi.
Donc
Il faut...
BFM, en gros, est passé d'une position d'outsider qui se permettait de mettre en avant de la marche, histoire de se
Non, parce que
démarquer.
je servais de prétexte.
Oui, c'est ça. Et puis après, ils sont rentrés dans le rang quand ils ont
Tous
pris
les
une place.
gens dont on a parlé là, qui se sont fait virer, c'est des gens qui sur une journée faisaient quoi? Une intervention d'un quart d'heure, 20 minutes, tout cumulé quoi, si tu veux. Donc sur 12 heures de propagande, tu vois. Donc voilà. Donc on était les prétextes, tu vois. Si jamais ça s'était mal passé, ils nous auraient sorti du chapeau en disant, bah, quand même, on leur a donné la parole, hein, donc on était pluraliste, donc voilà. Mais ça a pas grand intérêt, et je peux te dire que je suis bien plus heureux là où je suis. Voilà.
Oui, parce
Donc,
que maintenant, du coup, alors BFM, ça se termine en 2017, je crois.
l'élection de Macron, le lendemain. Il a
Voilà.
été élu le dimanche, le lundi,
Ah
on m'a dit, non, je devais venir le mardi, et on m'a dit, non, c'est pas la peine.
Ah oui, donc c'était vraiment...
Oui, ah bah
C'est automatique, quoi. Voilà.
oui. Alors, je suppose que M. Macron avait autre chose à foutre que de passer un coup de fil à BFM en disant tu vires de la
Oui, mais tout
marche.
le monde
Hein.
sait ce qu'il a à
Mais,
faire. Voilà.
enfin, j'espère pour lui. Après, on ne sait jamais avec lui. On n'est pas au bout de nos surprises. Mais non, je pense que c'est simplement que, voilà, il ne voulait pas avoir de voix trop dissonante. Et comme j'étais pas très Macron compatible, hein, ils se sont dit vaut mieux le dégager avant qu'il dise une connerie en direct, quoi.
Et nous, on se rencontre en 2018, la première interview, je crois, qu'on a fait ensemble dans les locaux de Pierre,
Ouais,
chez Prime View.
c'est déjà une longue histoire d'amour, hein, un truc de fou.
Et du coup, je me souviens à cette époque-là, tu me disais que tu étais en discussion avec Arte pour monter un format, etc. Alors, c'était quoi cette période?
Bah c'est simplement
Genre, entre 2017 et 2019, ça fait quoi? Promener le chien et le journal?
Ah non, non, mais tu sais, j'ai plein d'activités. En fait, BFM, ça me prenait toutes les semaines 1 heure, quoi. Donc
Ah, plus l'aller-retour.
voilà, en comptant l'aller-retour. Hein. Je faisais autre chose. En fait, j'ai des vrais métiers, hein, pas
Mais
juste aller montrer ma bobine à
c'était
la
plus chez
télé.
Platinum à cette époque.
Non, mais j'avais déjà monté mon. En fait, il faut savoir que Platinum, je l'ai vendu en 2014. Tu vois,
Y a du champ.
c'était loin. J'ai monté un family office à Genève.
Triskelion.
Triskelion. En 2015, je suis parti de Paris. Je suis allé m'installer dans ma maison de famille dans le Jura, côté de Lons-le-Saunier. Voilà. Ça a changé un peu de Paris. Et depuis, je suis ravi d'avoir fait le switch pour Lons-le-Saunier, surtout depuis les confinements, tu vois, les machins, où on nous empêche de vivre gentiment. Et donc, je suis très bien dans ma campagne, tu vois. Je balade mon chien sans masque. Et je suis très heureux. Voilà.
Et donc entre 2014-15 où tu montes ton family office et 2019, c'est ça que c'est le family office qui te prend du temps. On va expliquer après ce que c'est
C'est
qu'un
le
family
family
office.
office qui me prend du temps. Je fais en plus, je rédige depuis. Pop, 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 depuis.
2020.
Non, 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 non,
2019.
non, 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 bien
Non?
avant. 2017. 2017, j'écris une lettre d'abord pour.
Ah oui, pour
Oui, d'abord pour Vauban, qui est une boîte suisse. Et ensuite pour Agora, j'écris une lettre mensuelle. Et puis je gère mon family office, ce qui me prend quand même pas mal de temps.
il me
Voilà,
semble.
voilà.
Et du coup, en 2019, tu attaques un projet avec Arte. Donc tu
Et
passes à
du
l'ennemi, en fait, faut le dire clairement.
bah, je passe un
Ça
peu à
a été vu
l'ennemi.
comme une
Non, non, mais
trahison.
c'est très bien, c'est très bien. Alors bon,
RT, pour ceux qui connaissent pas, c'est Russia Today, ça veut dire, et c'est Poutine le patron, quoi.
c'est Poutine le patron. Alors, j'ai pas ma carte du FSB. Je
Service
suis
secret.
désolé. D'ailleurs, je peux faire un appel aujourd'hui. Si, si, non, bon, d'accord. Et donc,
Service secret russe, le FSB.
voilà. Et
Ouais.
en fait, c'était amusant parce que, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous sommes totalement libres. Je n'ai pas l'œil de Moscou au-dessus de l'épaule pendant que je fais mon émission. Donc, je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. Et c'est en plus la bête noire comme télévision de Monsieur Macron, ce qui m'amuse beaucoup. Donc voilà. Je suis ravi, je suis bien. Les équipes sont sympas. L'ambiance est super sympa. J'invite tous ceux qui peuvent plus voir en peinture les télés françaises, d'aller voir s'ils ne peuvent pas aller travailler chez RT. On y est bien et on est bien accueillis et je vous dis, on a une bonne émission qui marche bien. Il y a Frédéric Taddei qui est aussi à une émission là-bas
Qui est un des précurseurs et qui a été très critiqué quand il est passé justement chez RT, parce qu'on dit ouais, tu passes à l'ennemi.
mais exactement, ouais. Puis tu te rends compte, c'est une télévision russe. Alors, je rassure aussi, c'est assez rigolo parce que en dessous des retransmissions de RT sur YouTube, il y a marqué cette télévision appartient à l'État russe. C'est amusant parce que je vois pas la même chose sur les trucs de France 2, sur etc. Mais bon, peut-être que ça appartient pas à l'État français ou que l'État français se considère mieux qu'un État russe. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que y a quasiment plus de liberté en Russie qu'en France. Mais enfin bon, après ça, c'est
Après,
mon
s'il faut
opinion.
voir avec les chaînes étrangères, nous aussi, on en a une, France Outre-mer, je crois, je sais plus comment elle
Bah,
s'appelle,
France
RTO,
24. Hein.
France 24, et puis, en fait, c'est un outil d'influence et de renseignement, les médias d'un pays à l'étranger. Et c'est quelque chose de légal, et quelque part, tout le monde fait pareil, quoi. On a tous les grands pays ont leurs antennes, voilà, à
Mais tu
l'étranger
sais
pour
que
récolter de
y
l'info.
a RT aux États-Unis, il y a
Bien
RT
sûr.
dans d'autres pays, c'est avec la France qu'ils ont le plus de problèmes.
Ah oui?
Mais au lieu de la démocratie en France. Hein.
Donc RT, c'était la centième enregistrée aujourd'hui?
C'est la centième enregistrée aujourd'hui et voilà, et c'est sympa. On a couvert pas mal de sujets, on a fait des choses. Là, on a pas mal de sujets de fait, hein, parce que quand même. La gestion de cette crise est quand même assez rigolote. On n'a pas de mal à trouver des sujets toutes les semaines. C'est assez amusant. Et voilà. Et on a une émission où on fait venir un invité et on discute avec lui.
Et c'est quoi alors un family office? Parce que une émission de télé, on voit bien. Et tu dis, j'ai un family office à côté.
Bah, Family Office, c'est en fait c'est une société de gestion. Alors tu as deux sortes de Family Office. Tu as ce qu'on appelle les Single Family Office, c'est-à-dire c'est une société de gestion dédiée à une famille ou à une personne très riche et qui gère sa fortune. Et puis, tu as ce qu'on appelle des multi-family office. Ces multi-family office, c'est des choses qui ont plusieurs clients. Et voilà. Alors, la grosse différence entre ce que j'avais chez Platinum Gestion et ce que j'ai en Suisse, c'est que en Suisse, ce sont des plus gros portefeuilles.
C'est du multifamily office que tu fais.
C'est du multifamily office, mais avec de plus gros portefeuilles que ce que j'avais à Paris, où il y avait des gens qui avaient 100 000 balles à X. Là, ça commence plutôt, dans le family office, ça commence plutôt à 1 million.
Donc c'est ça, en fait c'est pour personnes fortunées. Tu t'adresses à des particuliers en
Voilà.
tant que personne privée et tu gères à partir d'un million. Et puis s'ils ont des enfants, des problèmes, des machins, tu gères cet aspect aussi familial, de gestion de fortune familiale.
Alors, je ne change pas les couches, je n'emmène pas les gosses à l'école et je les fais pas dîner, je les fais pas prendre leur bain, hein, donc qu'on soit clair. Non, je m'occupe de la partie financière de leur patrimoine et je le gère en Suisse parce que en Suisse, tu as beaucoup plus de facilité qu'en France parce que tu as accès à beaucoup plus de choses qu'en France, où tu es ultra limité.
Et puis, tu as beaucoup de clients étrangers.
Et puis j'ai très peu de clientèle française.
Parce qu'en fait, pour bien dire, quand vous créez votre boîte, si vous êtes en France, que vous avez des clients français et que vous montez votre boîte en Suisse,
Alors au début, oui, les premiers clients que j'ai eus sont des clients français. Et puis après, ça a été des gens qui sont domiciliés partout hors de France, quoi.
Oui, ça se fait rapidement, mais je veux dire, voilà, vous pouvez pas avoir des clients en France et une boîte à l'étranger et habiter en France. Le fisc
Non.
va vous chercher, il va dire, attends, t'es sympa, mais la France, c'est bien aussi. Donc tu vas mettre tes impôts en France.
Mais voilà, donc
Voilà. Donc il faut avoir
maintenant.
des clients étrangers pour
Ah
pouvoir faire ça.
oui, enfin, après, mais il y a beaucoup plus facilement accès, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens avec qui je discutais depuis des années quand j'étais dans la société de gestion en France. Quand je suis passé en Suisse, ces mêmes clients m'ont dit Ah, tu es en Suisse. Bon, ben, maintenant, on va discuter alors, vraiment. Donc,
Ça a levé des barrières.
ah oui, non, mais c'est très clair. Donc, voilà, donc aujourd'hui, oui, mon centre d'activité principal, c'est le family office. Après, je fais d'autres choses annexes, je continue ma lettre,
RT.
je fais RT, j'ai aussi chez Agora un service d'idées de trading pour quelques clients. Et puis voilà, enfin donc oui, je fais des trucs.
Et en fait, en family office, pour bien comprendre, on te confie son argent et toi, tu le gères. Et à la fin de l'année, ça fait plus X.
Alors, on me confie de
Pour faire
l'argent. En
simple,
fait,
oui.
on ouvre un compte dans une banque. Moi, je suis pas banquier. Hein, on ouvre un compte dans une banque et il y a une espèce de convention tripartite entre le client, la banque et la société de gestion
Et c'est toi
avec
qui
lequel
passes
je
les ordres.
travaille. Voilà. Non, c'est pas moi qui passe les ordres parce que je travaille avec une société de gestion qui s'appelle Génération Alpha et qui passe les ordres et qui génère les idées, etc. Moi, je fais plutôt de l'allocation d'actifs générale et puis voilà. Et on fait aujourd'hui, on fait beaucoup plus on essaie de redonner un peu de sens à ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que en bourse, t'as perdu beaucoup de sens. Tu veux, tu la bourse au départ, c'était quand même une histoire de financement d'entreprise. C'était pour ça d'ailleurs que ça a été fait. C'était pour financer des entreprises. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est des algorithmes, c'est des ordinateurs qui vendent à la nanoseconde, qui achètent et qui vendent à la nanoseconde, et t'as plus du tout d'objectif de financement d'entreprise. T'as juste faire du blé rapidement et en faisant le moins possible. Donc, et là, nous, on essaie de faire finalement de moins en moins de bourses, et en revanche, d'aller sur des vrais projets, de ce qu'on appelle du private equity ou du private crédit, c'est-à-dire qu'on va financer des entreprises qui ne sont pas cotées. Alors sous forme d'actions ou sous forme d'emprunts obligataires, mais on va les financer comme ça. Et là, pour le coup, c'est intéressant parce qu'on fait le vrai boulot qu'on faisait avant quand on faisait de la bourse. Voilà. Avec des boîtes qui ont des beaux projets, qui ont des belles idées, qui font vraiment de l'argent et pas du vent. Voilà.
Donc le client, il a son argent chez toi, entre guillemets, c'est-à-dire avec toutes les
Dans la
conventions
banque,
établies, voilà.
qui lui garantit, moi, si tu veux, si demain je passe sous un bus, mes clients, j'en suis tout à fait conscient, seront très malheureux,
Oui,
mais en fait, leur argent risque rien. Parce que,
il est à la
donc,
banque, oui.
il est à la banque, il est sur leur compte à la banque, et moi, j'ai simplement, à un moment, un mandat de gestion qui permet de faire des arbitrages sur leur compte.
Et c'est très différent de ce que tu faisais chez Platinium, parce que Platinium, tu avais des fonds, et ces fonds-là, chacun pouvait les acheter. C'est ça?
Non, non, chez Platinium, je faisais exactement la même chose, sauf que je faisais que de la bourse. Je faisais pas de private credit, je faisais pas de private equity, je faisais que de la bourse et je gérais des portefeuilles en mettant des lignes d'action en direct, des obliques,
N'y avait
des
pas de fonds
etc.
chez
Il y avait des
Platinium.
fonds, mais on n'utilisait pas que les fonds. Loin de là, on faisait ce qu'on appelle des architectures ouvertes, c'est-à-dire que on déposait là aussi des comptes chez plusieurs banquiers. Hein. On avait plusieurs banques avec lesquelles on travaillait. On travaillait déjà avec des banques suisses d'ailleurs, et on gérait ces comptes-là en direct, en achetant tel ou tel titre, en mettant quelquefois des fonds obligataires, des fonds actions, des fonds, tu vois. Donc il n'y avait pas, c'était pas uniquement des fonds Platinum Gestion. Il y avait plein de fonds de différentes banques et de différentes natures, tu
Donc en
vois.
fait, tu retrouves du sens petit à petit, puis c'est parti de trader, donc mal parti.
Non, pourquoi
Un côté
mal?
spéculatif, un côté l'argent pour l'argent quelque part, quand on achète et on vend à la journée.
Oui,
On
mais
finance pas des boîtes sur 24 heures.
non, 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 mais tu finances pas des boîtes sur 24 heures. Mais clairement, si tu veux, tu redonnes du sens à la bourse. Mais il y a eu une dérive. Si tu veux, la bourse de 1987-1988, c'est pas la bourse de 2003 et c'est pas la bourse de 2020, encore moins. Donc on faisait un métier, oui, qui paraît totalement vide de sens, même ce qu'on faisait en 90, mais on prenait des risques, c'était plus intéressant parce que t'avais vraiment une analyse un peu fondamentale à ce qu'on faisait. On faisait pas, tu vois, c'était pas juste un espèce d'algorithme qui tourne bêtement, quoi. Voilà. Maintenant, on faisait à ce moment-là aussi, quand j'étais chez Pitaton, on faisait des IPO, c'est-à-dire on faisait des mises en bourse de sociétés. On faisait des. Donc là, tu avais quand même un peu de sens, tu vois. Ça n'avait rien à voir avec ce que tu as aujourd'hui.
Et là, aujourd'hui, maintenant, tu participes beaucoup au financement des entreprises. Parce que tes clients ont besoin de rendement pour leur
Oui.
épargne, et le rendement vient de la création de richesse des entreprises, donc tu es...
Oui, puis c'est intéressant parce que tu sais dans quoi tu sais dans quoi tu investis et tu sais à quoi ça sert. C'est-à-dire que l'entreprise qui vient de voir, elle a un projet d'investissement, je sais pas, d'achat de terrain, d'achat de machines, d'achat de etc. Et elle vient de voir et tu vas l'aider à réaliser son investissement, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec aujourd'hui, dans les gestions, tu as des gens qui achètent des ETF ou qui achètent des fonds à formule. Ils sont incapables de dire ce que la formule
Raconte.
comporte, tu vois, raconte ce qu'elle fait, tu vois. Donc ça n'a aucun intérêt. Tu as perdu complètement le sens de la chose, quoi.
Et comment on fait pour placer, si on n'a pas 1 million aujourd'hui, son argent pour être, pour que ça ait quand même du sens et que ce soit quelque chose, Parce que tout ce qui est produit garanti, c'est garanti par un État dont la santé est plus ou moins. Voilà,
Mais il n'y a rien de garanti.
voilà,
Donc,
à part la mort et les impôts, il n'y a rien de
ouais.
garanti. Mais du coup, comment les gens Main Street, quoi, le monsieur et madame Michu, font pour placer leur argent intelligemment et en donnant un peu de sens aujourd'hui quand on a 50 000 balles, 100 000 balles ou 10 000 balles?
Eh ben, t'es pas bien. Non, mais sérieusement, t'es pas bien parce que le problème, c'est qu'il y a plein de choses. Si on prend quelqu'un qui a 50 000 balles d'épargne,
Ce qui est beaucoup pour beaucoup de gens,
oui,
c'est 50 000 balles, c'est pas rien, quoi.
le problème, c'est que t'as pas des milliards de solutions. T'as pas des milliards de solutions. Que si tu veux pas te les faire piquer par l'État d'une manière ou d'une autre, hein, peu importe la manière, ce qui compte c'est la conclusion de l'histoire. Si tu veux pas te les faire piquer par l'État, moi ce que je conseillerais aux gens d'abord c'est de débancariser le plus possible parce que la banque est un endroit excessivement dangereux. Hein, pour tes sous, donc
Pour
c'est
rappel, les banques en
débancarisé.
Europe, elles ont perdu 95% de leur valeur depuis 2008.
Oui, et puis c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut se dire que le marché, même si c'est de moins en moins vrai à cause des liquidités qu'on balance dessus, mais le marché, c'est d'abord un fournisseur d'informations. Donc quand un titre, quelle que soit la direction du marché, le marché a rebondi depuis 2009, 2010, le marché a rebondi. Et pendant ce temps-là, les banques n'ont fait que descendre. Puis toutes les banques, hein, je ne parle pas juste des banques françaises, banques italiennes, banques, toutes les banques, hein, ont perdu 90% de leur valeur. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'elles ne vont pas bien. D'accord? Et c'est pas quelque chose de. Quand on perd 90% de la valeur, qu'il n'y a jamais un rebond, qu'il n'y a jamais des phases de rebond,
Bah, c'est cuit, quoi.
c'est que probablement, il y a des gens qui savent que ça ne va pas bien. Voilà. Et donc, faut pas laisser ses sous dans une banque. Parce que c'est un endroit excessivement
On
dangereux.
peut laisser 5 000 balles pour faire les courses, quoi. Mais voilà, faut pas
Tu
être
peux
excessif,
laisser
mais.
de quoi faire les courses, mais tout le reste, c'est-à-dire ton épargne, ce dont tu n'as pas besoin là à l'instant T, eh bien, faut le sortir. Et faut le sortir. Alors, le meilleur truc aujourd'hui, c'est de le transformer en métal. Alors que ça soit de l'or, que ce soit de l'argent, que ce soit du platine, il y a des pièces de platine, il y a des pièces d'or, il y a des pièces d'argent. Alors je vous déconseille le trou dans le jardin, pas une bonne idée. Mais vous savez, 50 000 balles, c'est 25 pièces d'or. 25 pièces d'or, c'est ça. Ça se planque, quoi. Hein? Voilà.
Oui, donc il n'y a pas beaucoup de solutions aujourd'hui pour les petits épargnants, à part d'investir en eux-mêmes, d'investir sur leur formation, sur leur dans les outils dans l'outil de travail, dans
Ah
voilà, dans ce qui a du sens, quoi.
oui. Et puis, je vous dis, ne croyez pas ceux qui vous disent que les banques sont dans une bien meilleure situation que 2008, ben c'est pas vrai. Aujourd'hui, on est toujours sur des banques qui sont extrêmement dangereuses, qui sont systémiques, qui peuvent faire sauter le système à tout moment. Alors, tant que c'est entre guillemets, tant que c'est Kerviel qui perd 5 milliards, ben c'est le contribuable français qui paye les 5 milliards. Et encore, il faudrait savoir si réellement il a perdu 5 milliards et si la Société Générale on lui en a pas mis un petit peu sur le dos au passage pour rigoler. Mais ça se contrôle, 5 milliards. Le jour où c'est 500, on fait quoi? Voilà, fin de l'histoire. c'est le quart du PIB français, on est mal. Voilà. Et ça se terminera forcément mal. Il y a trois phases. J'ai écrit ça il y a longtemps. Il y a trois phases de la décomposition, non seulement de la finance, de l'économie, mais je pense aussi de la civilisation occidentale. Au départ, c'était. Alors, tout le monde s'est foutu de ma gueule quand j'ai dit ça au début,
C'était
sur
quand?
BFM. Ça date d'il y a assez longtemps. Où je disais, en fait, on va assister à une, on a, on est en train d'assister à une japonisation de toutes les banques centrales. Alors tout le monde se marrait. Le fait est qu'aujourd'hui, on est tous, en termes de banque centrale, on est tous japonais. Et puis après, j'ai dit, japonais, c'est-à-dire qu'on fait tourner la planche à billets, quoi.
La dette est achetée par les banques centrales et plus par les marchés.
Voilà. Et on fait tourner la planche à billets et donc on crée une espèce de masse monétaire gigantesque. Mais qui ne va pas dans l'économie, qui va uniquement dans la finance et qui reste dans la finance. Et qui crée ces bulles qu'on a dans l'immobilier, dans tout ce qui est financiarisé. Et puis après, on est rentré dans une deuxième phase. Qui est la soviétisation de l'économie, c'est-à-dire l'État rachète tout, l'État vous fera vos chèques de salaire, l'État est en train alors, je dis pas qu'il profite du Covid, mais à l'occasion du Covid, alors déjà il émet pas mal de lois qui sont totalement liberticides, mais c'est pas grave, tout le monde se croit encore en démocratie parce qu'ils vont tous voter comme des veaux en 2022. Donc il y a ces lois liberticides qui sont en train d'être votées, et en plus l'État, en soutenant inconditionnellement toutes les entreprises, le chômage partiel, etc., fait que petit à petit, tu appartiens à l'État. Maintenant, il va même chez toi pour te dire que tu n'as pas le droit de ramasser les œufs. Tu n'as
Ramasser
pas
les œufs?
les œufs de Pâques. Monsieur Castex a dit, c'est interdiction d'aller ramasser les œufs en
C'est
famille.
quoi cette connerie?
Ben non, c'est pas une connerie. C'est une connerie de Monsieur Castex, pas de la mienne. Tu n'auras pas le droit tu n'as pas le droit de te réunir à plus de.
Enfin, qu'on l'explique à la campagne, on va ramasser les œufs tous les jours, hein, au poulailler, en famille. C'est pas qu'à Pâques, hein. C'est pas
Mais
qu'à
tu sais le point hebdomadaire de Monsieur Castex qui est. La minute de rire, hein. Je sais pas s'il faut rire ou pleurer, mais bon. Donc en fait, à force de, en fait, ils sont en train de phagocyter complètement l'économie, quoi. Et puis ils le font pas qu'en France, c'est la même chose
En
partout. Aux
Occident.
États-Unis, c'est pareil. Et ça, c'est une phase de soviétisation de l'économie. Hein, on va tous bosser pour le grand kolkhoze France ou autre. Et puis après, j'ai bien peur que ça soit la période de libanisation. Tu vois, ce qui se passe au Liban aujourd'hui, les banques sont fermées, la monnaie libanaise est en train de partir un peu comme la monnaie vénézuélienne. Les gens ont plus de fric. C'est un pays qui s'écroule.
Taux de change qui s'effondre.
Voilà, c'est un pays qui s'écroule totalement, et j'ai bien peur qu'on suive cette voie-là. Alors, je dis tout de suite aux gens qui sont dans le déni en disant, ouais, mais nous, on est français. Le Liban, c'était la Suisse du Moyen-Orient, hein, juste pour vous fixer les idées. Donc, les Libanais étaient 1 000 fois plus riches que nous, hein, et pourtant, aujourd'hui, ils font pas les marioles. Hein. Il y a ces trois phases qui sont en train de se dérouler.
Donc, ce que tu appelles libanisation, c'est effondrement du taux de change?
Effondrement du taux de change, fermeture des banques,
Contrôle des
on
capitaux?
te, oui, contrôle des capitaux. Alors, on te, permet de retirer 200 balles par semaine pour aller te chercher à manger. Puis avec tes 200 balles, tu achètes de moins en moins de choses, hein, parce que la monnaie s'écroule. Donc ceux qui n'avaient pas leur argent en dehors du Liban, mais dans des banques libanaises, et qui ne l'avaient pas dans une autre monnaie que la monnaie libanaise, qui et bah aujourd'hui ils ont plus un radis, voilà. Donc tu sais, c'est les brouettes de billets pour
Et c'est quoi?
pour
C'est
ça.
dû à quoi la libanisation? C'est quoi le phénomène derrière l'effondrement du taux
La
de change?
libanisation, c'est une mauvaise gestion de l'économie. Là aujourd'hui, enfin, tu peux pas imaginer que les banques centrales n'arrêtent pas de faire tourner la planche à billets et que ça aura aucune conséquence. Si ça n'a, enfin, arrêtons avec ça. Si ça n'a aucune conséquence, eh ben, faisons tous tourner l'imprimante. Imprimons-nous des tas de billets de 500 euros et allons les dépenser. Il n'y a pas de conséquence. On fera exactement la même chose que ce que fait la Banque centrale et qui n'arrête pas de nous dire, mais non, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer. Ça s'est jamais bien passé dans toute l'histoire du monde. Donc, à chaque fois que un pays s'est mis à faire tourner la planche à billets en surabondance, ça s'est terminé de la même façon. Et là, on voudrait nous faire avaler que ça se terminera pas de la même façon. Bah si, je suis désolé, ça se terminera de la même façon. Donc voilà.
Comment on devient trader? C'est-à-dire, quand tu étais ado, tu rêvais de quoi?
Je rêvais d'être médecin parce que je savais pas qu'il existait d'autres métiers.
C'est-à-dire...
Bah, mon père était médecin, toute la famille autour de moi était médecin, donc je voyais que des médecins, donc je savais pas qu'il existait d'autres métiers.
coup, tu dis, je vais faire médecin, du coup, ça a
Bah oui,
l'air bien, ça a l'air bien.
qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bah médecine, pourquoi il y en a d'autres?
Mais tu faisais quoi quand tu étais ado? Tu rêvais de quoi? C'était un fils de bourge, bien traité, avec des bonnes notes premier de la classe.
Ah non, alors non, j'étais pas, j'avais pas de bonnes notes premier de la classe parce que j'avais toujours une connerie à faire à l'extérieur, donc et voilà. Et après, j'ai été pensionnaire pendant un moment.
Alors, pensionnaire, ça veut dire que tes parents t'ont mis en pension pour essayer de te
Ouais, parce
remettre
que
sur le bon chemin?
non, d'abord j'étais fils unique. Alors mes parents se disaient quand même qu'il aille se frotter un peu à des petits camarades. Donc ils m'ont mis pensionnaire à Pontoise.
À quel âge?
Je sais plus quel âge j'avais. J'étais en cinquième et j'avais un an d'avance. Donc voilà. Je sais plus quel âge ça fait, mais j'ai
Ça
fait
fait 11
5,
ans?
4, 3, 2
11 ans.
là-bas. Et voilà, et c'était un peu école style anglaise, tu vois, le matin tu bosses et puis l'après-midi tu vas jouer au rugby avec les copains.
Et la nuit...
Et la nuit, quelquefois, tu distilles de l'alcool avec des pommes de terre. C'est rigolo. C'est pas très bon, je vous le dis. C'est pas très bon. Il paraît que ça rend aveugle quelquefois et donc il faut pas en abuser.
Faudrait
Voilà.
qu'ils ont arrêté la production.
Voilà, c'est pour ça qu'on a arrêté la production très vite. Et puis, c'est super long, hein. Quand tu veux ça dans le fond d'un verre, faut y passer la nuit. Hein.
Les
Donc,
trouvais où les patates?
hein?
Dans un internat, trouver des patates la
Ah
nuit,
non,
c'est
non,
pas
mais
évident.
on les apportait avec nous le dimanche soir quand on
En
allait
cachette?
à l'internat, oui, bien sûr.
Parce qu'il faut expliquer aux surveillants qu'on a des sacs de patates
Non,
dans
mais
le...
on les planquait, puis fallait surtout pas se faire gauler avec l'alambic parce que t'es un
Où t'as
petit.
trouvé un alambic dans un
Non, mais
pensionnat?
j'en ai un à la maison.
C'est l'alambic
Mais
du
chut, parce que c'est
pensionnat?
interdit, je te rappelle. Hein, donc,
C'est le même?
non, non, c'était un autre. Mais
Mais dans
voilà.
un pensionnat, comment tu trouves un alambic?
Mais parce qu'il y en avait un qui avait amené un alambic. Et,
Non, mais c'est gros un alambic.
non, non, ah non, 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 t'en as qui sont grands comme ça. Mais c'est pour ça que c'est très long. Ça, tu vois, très long. Donc, non, voilà. Enfin, bon, tu. Donc.
Et t'avais des bonnes notes quand même le lendemain?
Non,
Enfin,
non.
t'étais quoi, dernier,
Oh
moyen,
non, non,
premier
non, j'étais
tiers?
pas dernier, non, je m'arrangeais toujours pour passer dans la classe supérieure sans faire grand-chose. Alors,
on se douce,
j'ai
quoi.
rarement fait quelque, enfin, pendant toutes mes études, j'ai rarement fait quelque chose, tu vois. J'arrivais, j'étais de passage. On mettait les commentaires sur mes bulletins. C'était a des capacités, mais les utilise pas beaucoup. Voilà. Donc, bon après, voilà, j'ai passé mon bac à l'écrit,
Bac S,
pas
enfin
besoin.
scientifique.
Oui. Et puis voilà quoi.
Et
Puis
fac de médecine, quoi.
après fac de médecine, et là j'étais pas préparé parce que en fait il faut bosser. Fac de médecine, faut bosser. Et alors moi, tu vois, comme j'avais pas beaucoup l'habitude de ça, bah en fait je me suis planté
Ah,
quoi.
tu t'es pas mis à bosser pour autant en médecine, quoi.
Ah non, ah non. Non, ah non, non, bah non, 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 bah t'arrives en fac, t'as un amphi de 500 personnes, sur les 500 personnes, t'as 300 filles. Tu vois, enfin, j'avais autre chose à faire que, franchement, peut-être c'est des bouquins de chimie organique, hein, c'est, tu vois. Donc, voilà, donc, non.
Et comment tu penses quoi à cette époque-là quand tu t'amuses à la fac et que ça marche pas, mais tu t'amuses quand même, tu te dis oh, je m'en
Ben je te
fous
dis
ou
là,
t'es.
non, la première fois, je suis pas passé loin, hein,
Ah oui, donc t'y croyais quoi.
sans rien faire. Je suis pas passé très très loin. Et puis la deuxième,
Sur un
la deux,
malentendu, ça pouvait
voilà,
marcher.
sur un malentendu, le gars devant moi se répétait la jambe. Ce jour-là, c'était bon quoi. Et en fait, non, en fait, la deuxième, là, j'ai quand même bossé beaucoup plus. Et puis je me suis planté. Alors après, je me suis dit, bon, vu que je voulais faire chirurgie, je me suis dit, si
Pour
je
le
fais.
côté social et le contact avec le client, c'est
Oui, non. Ah, mais je suis totalement asocial, moi je suis un ours, donc ça n'a pas l'air comme ça. Mais non, non, je suis un vrai ours. Je suis bien dans ma campagne, je vois personne, je suis très bien, je suis très heureux comme ça. Donc voilà, et puis donc je me suis fait une raison en me disant que si déjà pour la première année je la faisais trois fois, ça faisait un peu beaucoup, hein, parce que les études de médecine c'est quand même assez long, hein. Donc si tu te rajoutes 3 ans dès le départ, ça fait quand même pas mal. Et puis voilà. Et puis après, comme beaucoup de mes petits camarades, c'est le hasard après qui fait les choses.
C'est-à-dire que tu es tombé dans le trading comme
C'est les
Obélix dans la
rencontres.
potion magique,
Oui,
quoi, par
non, mais c'est les
hasard.
rencontres, quoi. C'est un jour, fin de soirée, t'es assis à côté d'un gars, t'as 3 grammes, hein, tu vois, et puis tu lui dis, tiens, t'aurais pas un stage parce que là, il faut que je trouve un stage, je suis un peu à la ramasse, faudrait que je le trouve très vite. Et puis le type à côté te dit, bah moi, je travaille chez Pinaton, attends, je vais te chercher le nom, etc. Puis il me revient le lendemain, il me dit, je savais même plus ce qu'on s'était raconté, et il me dit, voilà, c'est Jean Borgex, chez Pinaton, qui est le patron de l'analyse financière. Appelle-le.
Et pour faire quoi? Quand t'es en médecine, c'est pour le café? C'est pour...
Ah non, non, là j'étais déjà à l'ICES, donc et j'ai saoulé les gens au téléphone jusqu'à ce qu'ils craquent. Je l'ai eu à l'usure, vraiment à l'usure. Et puis il a fini par me recevoir, et puis là, il se trouve qu'on a eu un contact assez facile parce qu'il avait fait la même chose que moi. Il avait commencé par
Alambic?
non,
Non.
par une première année de médecine. Il aurait pu, mais par une première année de médecine. Et puis, son père est médecin, et donc voilà, on s'est retrouvés assez facilement. Et puis voilà, puis je suis rentré dans le truc sans savoir exactement ce que c'était. Et puis
Et comment t'es passé de médecine à comptable, enfin, à l'ICS?
bah parce que quand tu penses qu'il n'y a qu'un métier, c'est la médecine. et puis tu te plantes une deuxième fois, et puis tu te dis sérieusement, je vais pas faire une troisième. Ça.
Ah, tu fais comme tout le monde, tu fais kiné ou dentiste. Enfin, tu vois.
Ah non, ah non, 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 parce que là, pour le coup, faut discuter avec les gens. Non.
Ah oui, donc la chirurgie, c'était vraiment pour qu'ils soient déjà assommés quand tu les croises.
Comme ça, tu vois, il arrive, il dort, et puis c'est très bien. Non, 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 bah, c'est hors de question. Ah non.
Et alors, comment t'arrives à la compta? Parce que c'est loin des bases, là.
Parce que je pense que je me suis dit, je vais pas me mettre à faire du droit, parce que si ça se trouve, ça va pas me plaire. Et je vais encore perdre un an ou deux ans, machin. Ouais. Donc, on a cherché un truc qui était, assez généraliste. Et l'ICS, c'était assez généraliste. T'avais de l'éco, t'avais de la fiscalité, t'avais du droit des sociétés, t'avais de la compta, mais t'avais pas que ça. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais faire ça, quoi.
Oui, donc en fait, t'as pris l'annuaire des formations et t'as tapé dedans, quoi. C'était assez... Ça aurait pu être autre chose, quoi.
J'aurais pu faire du droit, j'aurais pu faire autre chose, ouais.
D'accord. Ouais, et puis du coup, comme t'étais là-bas, et ben après, le stage chez... une boîte de gestion, c'était, voilà, pourquoi pas, quoi.
Oui, bah, c'était...
Et pourquoi rappeler et insister auprès de Jean Borgex plutôt qu'un autre?
Et parce que, en fait, ça m'embêtait profondément d'aller envoyer 250 CV. c'était pas mon truc, donc je me suis dit, mais en fait, pourquoi il ne m'engagerait pas? et donc j'ai envoyé un CV qui était le seul que j'ai envoyé de ma vie d'ailleurs. J'ai envoyé un CV à Jean et après je lui ai pourri la vie au téléphone.
Pour éviter d'avoir à refaire un autre CV.
Ouais. Donc je lui ai pourri la vie au téléphone et puis je comprenais pas. Il hésitait parce qu'en plus ils étaient en plein déménagement. Alors il me dit ouais mais je sais pas si je vais prendre des analystes et que ça. Et au bout d'un moment, j'ai dit à Jean on se voit demain 9h. Il me dit mais je t'ai pas filé de rendez-vous. Je dis si. Et en fait on s'est vu le lendemain 9h. Voilà. Et
tu l'as enfumé pour le...
Non, je l'ai pas enfumé. Je lui ai dit c'est comme ça, puis c'est tout, quoi. Puis, et comme il est adorable, il a fini par céder. Et puis on s'est vu. Et puis voilà. Et puis ça a très bien fonctionné.
C'est là que tu t'es mis à bosser, en fait. C'est avec lui.
Ah ben c'est là que je me suis mis à bosser, oui, parce que sinon j'avais jamais bossé avant. Donc surtout que on te fait tellement avaler de trucs en première année de médecine que ensuite quand t'arrives et que t'as un petit bouquin de gestion à apprendre, tu le lis en 3 heures et tu le sais par cœur, enfin tu vois. Donc j'ai pas fait grand chose, quoi. J'ai vraiment commencé à bosser quand j'ai commencé à bosser
comme analyste,
voilà. Comme analyste.
Et qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi tu t'es mis à bosser maintenant alors que tu aurais pu commencer avant, tu
vois? Parce que c'est sympa. C'est sympa d'aller chercher le petit truc, etc. Moi, ça me faisait marrer. Donc voilà. Puis après, je suis passé assez rapidement à la table. Donc là, c'était t'es payé pour jouer. Payé pour jouer toute la journée. Enfin, c'est quand même un truc. T'as pas beaucoup de métiers comme ça où t'es payé pour jouer toute la journée. Puis au bout d'un moment, en revanche, au bout d'un moment, tu fais le tour, quoi, parce que c'est rigolo, mais enfin, ça donne. Enfin, au départ, je pense que t'as pas mal d'attentes, surtout quand tu passes à la table et que t'es sales, tu te dis je vais rencontrer des gens intéressants, des patrons de grandes sociétés, et puis de l'autre côté des grands banquiers, etc. Et en fait, tu es assez vite déçu. Tu es assez vite déçu parce que tu constates quand même rapidement que si tu as cru que tu allais te coucher moins con le soir que tu t'es réveillé le matin? Eh bien non. Non, non. Tu aperçois que c'est quand même assez, assez pauvre
C'est-à-dire,
intellectuellement.
humainement?
Humainement, intellectuellement, etc., des gens qui te font progresser, des gens qui te rendent plus intelligent le soir que tu n'es le matin, t'en as pas beaucoup, hein. T'en rencontres pas beaucoup. Donc, voilà.
Parce qu'en fait, vous discutez essentiellement de t'as combien, je te donne quoi, tu reprends, et
Non,
vous
puis tu
parlez
t'aperçois
pas
que
de...
beaucoup ont une très belle carte de visite, mais sont quand même très très cons.
Ah oui, c'est
Ah
plus que...
oui. C'est pas le fric que tu gagnes qui te rend intelligent, hein. Le fric n'a jamais été un indicateur d'intelligence, hein. Donc, et il y en a beaucoup où tu te dis. Ils ont été là au bon moment, hein, parce que c'est pas sur leur qualité intellectuelle qu'ils l'ont gagné, leur argent, hein. Donc
Ouais.
voilà, enfin
Donc en
c'est.
fait, t'y allais pour te confronter au meilleur, entre guillemets, ou au mec,
Non,
et
mais
puis
j'y allais
finalement...
parce que c'est vrai que c'est intéressant quand tu passes la journée et que tu rencontres quelqu'un qui te fait progresser, c'est intéressant quand même. Et puis au bout d'un moment, tu t'aperçois que c'est quand même, il y en a beaucoup qui sont très très binaires. Hein, voilà. Donc bon, voilà quoi. Donc au bout d'un moment, c'est fatigant.
Et l'argent n'est pas suffisant pour tenir à cette place parce que tu gagnes bien ta vie là.
Ah non, mais tu sais quand j'ai basculé, c'est-à-dire quand j'ai quitté la société de bourse dans laquelle j'étais. Et que j'ai monté ma boîte, j'ai une sérieuse baisse de
Oui, non, mais je veux
rémunération.
dire quand
Hein,
tu es passé à la
c'est-à-dire que
table.
pendant 3 ans, je ne me suis pas payé quand même.
Non,
Hein.
mais quand tu es passé à la table, comme tu dis, là, tes salaires, tes revenus ont explosé avec les primes.
Oui.
Et du coup, ça n'a pas suffi, parce qu'on dit toujours, ah, mais un trader, il gagne de l'argent, il plane,
Mais au
quoi.
bout d'un moment, je te dis, moi, je veux bien gagner de l'argent, mais faut aussi que je fasse quelque chose qui m'intéresse, sinon ça me casse les pieds, quoi.
Et c'est là que tu te dis, entrepreneur, ça va
Bah,
monter
tu sais,
ma
quand tu es
boîte.
trader, tu es un peu entrepreneur, parce que tu es un peu l'électron libre dans la société. Hein, donc, tu réponds qu'au big boss de la boîte. Enfin, tu as ton PNL tous les soirs, il faut que tu sois positif, etc. Donc,
Donc, perds tes profits, hein, PNL.
voilà, tu es quand même quelque part un petit entrepreneur individuel, quoi, si tu veux. Donc après le passage j'ai jamais supporté l'autorité, donc
Un petit conflit avec l'autorité.
petit conflit, tout petit conflit avec l'autorité. Donc voilà, donc j'imaginais pas être salarié d'abord toute ma vie. Ça, c'est une chose. Et puis j'imaginais pas aller dans une grosse boîte. Donc je me souviens, j'avais été chassé à un moment et je me retrouve devant le patron de la table d'une grande banque française. Et l'entretien se passe bien. Et puis on discute assez longtemps. Il m'envoie une lettre quelques temps après pour me dire qu'il ne me prenait pas. Et la raison était exceptionnelle. Je lui avais répondu d'ailleurs. J'avais fait une lettre assez rigolote pour lui répondre. Mais il me dit, je ne sens pas en vous un instinct suffisamment grégaire pour vous intégrer dans la boîte. Et qu'un gars puisse me répondre ça, J'avais dit, mais attends, le gars, il me prend pour un mouton et il se prend pour mon berger. Enfin, il y a un truc qui ne va pas, quoi. J'avais trouvé ça ahurissant. Donc, en gros, on cherche des gens, faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse dans ce genre de banque. Donc, c'était pas mon truc. Je savais que je serais pas resté 2 jours. Enfin, au bout de 2 jours, ça allait clasher. Donc,
Au moins, c'était clair.
oui, non, mais très bien, très bien. Il m'a évité de faire une bêtise, mais très bien, parfait. Mais ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire que, et à chaque fois que j'ai passé des entretiens dans des grosses banques, etc., ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas parce qu'il savait que j'allais pas supporter. Donc voilà. Donc il fallait que je fasse autre chose. Soit je restais et je continuais à être trader dans des petites boîtes comme ça. Mais c'était de plus en plus difficile aussi parce que les boîtes où j'avais commencé, c'était des boîtes qui étaient suffisamment petites pour pouvoir toucher à tout, pour pouvoir garder une casquette d'analyste en même temps que etc. Trader en même temps que sales, en même temps que. Et puis au bout d'un moment, il y a eu de plus en plus de réglementations pour segmenter les métiers. Et dans des petites sociétés de bourse, elles n'ont pas suffisamment de surface pour avoir un trader qui fait de l'argent à plein temps, quoi, si tu veux. Donc voilà, donc il fallait. Ça y est, j'avais fait le tour de la question, fallait que j'aille ailleurs. Fallait que je fasse autre chose.
Et du coup, tu as proposé à ton patron de s'associer avec toi? Comment ça se passe? Tu allais le voir, écoute, tu étais sympa, maintenant on va causer sérieusement?
Non, alors j'étais plus chez Pinaton, donc Jean était resté chez Pinaton. Donc moi j'avais été dans d'autres sociétés de bourse. Et donc quand je suis parti de la société de bourse, j'ai donné ma démission, je suis parti. Et puis, d'abord, je me suis fait 6 mois de vacances, hein, et c'était très bien parce que j'arrêtais pas depuis que j'avais commencé. Je prenais quasiment jamais de vacances. Enfin, je bossais vraiment pour le coup. J'ai rien foutu pendant mes 20 premières années, mais après, j'ai plutôt bossé.
T'as pris ta retraite quand t'étais petit?
Voilà,
T'as
mais
pris ta retraite quand
exactement à l'inverse. Et puis, au bout de 6 mois, j'ai commencé à réfléchir sur le montage de la société de gestion. Et puis, à ce moment-là, j'ai entendu que Jean allait prendre sa retraite. Et donc, je suis allé voir Jean et puis je lui ai dit, t'as envie d'aller taquiner la truite ou est-ce que tu veux faire autre chose? Et il m'a dit, ah, bah écoute, tu fais quoi? Bah, je lui ai dit, je voudrais monter une société de gestion. Ah, bah ouais, c'est cool, on va bosser ensemble, quoi. Donc, ça a été génial parce que c'était sympa de se retrouver. Avec Jean, je l'ai 94-2003. Voilà, j'étais séparé, on a travaillé chacun de notre côté de 94 à 2003, et on s'est retrouvé. On s'est retrouvé. En fait, j'ai monté la société de gestion en 2005. Hein. Donc, on s'est retrouvé en 2005 pour monter la société de gestion. Donc, c'était super. Voilà.
Et là, ça a fait une belle.
Oh ben là, on s'est bien marré pendant un bon moment. Ouais. C'était sympa. Et puis voilà. Et puis après. Tu peux pas. Le problème, c'est que tu peux pas monter ta boîte comme ça tout seul alors que tu es trader, tu changes de métier, tu fais une société de gestion, etc. C'était compliqué. Donc moi j'étais ravi de le faire avec Jean. Voilà.
Est-ce que un jeune qui voudrait faire du trading aujourd'hui, tu lui dirais quoi?
Il fait plus de trading, il fait des algorithmes aujourd'hui, donc c'est
Ah,
plus
il y a
très
encore
drôle.
des desks de trading dans les banques.
Ouais. C'est aujourd'hui, je suis pas sûr que réellement ça soit comme avant et je pense que le meilleur truc que je puisse lui dire, c'est de faire autre chose que du trading. Voilà.
Parce que ça sert à quoi le trading?
À pas grand-chose, en fait.
On dit que ça apporte de la liquidité, que ça permet de faire vivre le second marché pour que...
Oui, ça apporte de la liquidité.
Non mais en vrai, alors, t'en penses quoi?
Ben, tu sais,
Si tous les
voici.
traders se font écraser demain à 8 h pile par tous les bus de leur rue, s'il n'y a plus de trader demain matin à 8 h, qu'est-ce qui se passe?
Il ne se passera pas grand-chose, je te dis, en plus de plus en plus, c'est des ordis, donc que tu sois écrasé ou pas, l'ordi continue. Donc ça, je pense que c'est surtout pour moi une réforme de la bourse qu'il faudrait qu'on ait, c'est-à-dire déjà supprimer tout ce qui est... Tout ce qui est trading à haute fréquence, etc., qui rime à rien. Ça rime à rien. C'est juste ridicule, si tu veux. Les mecs qui sont là en train d'essayer d'avoir la distance de câble la plus courte possible parce qu'ils gagnent une nanoseconde. Enfin, c'est grotesque. Donc si tu veux supprimer ça, moi je serais pour revenir à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire une cotation par jour.
Mais
Comme
t'as pas
tu le
fait.
disais, la valeur de la société, elle varie pas toutes les secondes, hein.
Mais t'as pas fait du trading quand il y avait
Donc,
une cotation par jour, toi.
mais tu peux très bien.
Pas de l'intraday avec une cotation par jour,
Non,
tu
mais tu peux
dis.
pas faire de l'intraday, mais tu peux faire du trading, ce qu'on appelle overnight, où tu gardes ta position pendant quelques jours, rien ne t'en empêche. Voilà. Et à ce moment-là, tu élimines tout ce qui est le bruit, la mousse, l'écume, la vague, quoi. Donc c'est très bien. On devrait faire ça. Et je pense que ça nous éviterait beaucoup de bêtises.
Est-ce que les jeunes qui sont doués, qu'on envoie dans le trading, c'est gâcher l'intelligence alors qu'on pourrait leur faire chercher, je sais pas, des remèdes contre le cancer ou innover dans des boîtes où ils ont envie ou voilà. Est-ce que c'est un gâchis d'intelligence d'envoyer des jeunes dans la finance alors qu'on a plein de vrais problèmes entre guillemets?
Ah, on a plein de vrais problèmes et oui, c'est un gâchis, oui, c'est un gâchis d'intelligence. Oui, qu'est-ce que je te dise d'autre? Mais après, bon, je sais ce que ça va donner. Ça fait le vieux con qui s'en est foutu plein les fouilles pendant longtemps et qui dit surtout n'y allez pas parce que
Après,
c'est
on n'arrive plus à
terrible.
porter les valises.
Voilà, c'est terrible ce qu'on a fait. Non. non, mais je crois que réellement, il y a une espèce de dérive qui est pas bonne et qui est due à l'action des banques centrales, qui est due faut dire aux gens que d'abord, c'est pas facile. C'est-à-dire que les traders qui gagnent de l'argent sont des gens qui bossent.
Il y en a autant qui en perdent qui en gagnent ou
Il y en a beaucoup plus qui en perdent que de
chez
gens
les
qui en
pros?
gagnent réellement. Pour gagner en trading, d'abord, il faut être extrêmement carré. C'est-à-dire, c'est pas, c'est des plans de trading qui sont des plans stricts. Et si tu en sors, tu vas perdre de l'argent. Et c'est un vrai boulot. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que si vous faites du trading, vous allez gagner de l'argent en dormant. Ce n'est pas vrai. C'est des heures et des heures de boulot. c'est des heures où on cogite, c'est des heures où on s'organise, où on fait des plans, c'est des heures où on étudie les choses. Et c'est pas en claquant des doigts. Et il y a toute cette tendance aujourd'hui avec ces monceaux de pognon qui sont déversés sur les banques de faire croire aux gens qui vont gagner de l'argent sans rien foutre et rapidement. D'où le Bitcoin, d'où les tweets d'Elon Musk, d'où etc. Les manipulations de cours qu'il y a, tous les contre-Robin Hood, tu sais, qui sont ouverts sur les 24 derniers mois, etc. Tout ça participe à une espèce d'ambiance de je me gave le plus vite possible, etc., sans trop réfléchir. Bon. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Les traders qui gagnent vraiment et qui gagnent tout le temps, d'accord,
Des Peter Lynch, des...
sont des gens qui bossent énormément. Voilà. Donc, moi, quand je faisais ça, c'était 6 heures du matin tous les jours au bureau.
Même tu
Voilà.
partais à quelle heure? À midi? Non.
18-19,
D'accord.
ça te faisait des bonnes journées. Et puis tu te barres pas à midi, hein.
Et qu'est-ce que c'est bosser dans le trading? C'est-à-dire qu'est-ce que ça consiste en quoi le travail? Tu regardes, enfin.
Bah, tu t'apprends tous les jours, c'est-à-dire que tu regardes comment les cours évoluent, quelles sont les corrélations, quelles sont. Tu t'étudies les titres, tu as tout un boulot, c'est-à-dire c'est pas juste je joue aux fléchettes, j'envoie ma fléchette, tiens, ou j'attends que Elon Musk me fasse un tweet sur Signal et je vais comme un bourrin sur Signal, alors que c'est pas le bon signal, mais voilà, enfin c'est Donc c'est vraiment du boulot quoi. C'est connaître les marchés, regarder ce qui se passe, essayer d'anticiper, essayer de savoir ce que comment ça va se passer, essayer de trouver des corrélations entre certaines données. C'est traiter les données que tu reçois en permanence, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu es dans un monde où tu as instantanément, tu as des milliards d'informations, d'accord? Il suffit, un, de savoir où les chercher, et deux, de les traiter et d'imaginer ce que ça peut avoir comme influence sur la bourse, sur les titres, etc. Donc voilà, c'est un vrai boulot. Et c'est pas juste j'achète du Bitcoin sans rien y comprendre et j'attends que ça monte parce que on m'a dit que ça allait monter.
Est-ce qu'on peut être trader chez soi en disant, allez, j'ai 50 000 balles?
C'est très difficile.
Qu'est-ce qui fait la différence entre un trader pro et un trader dans son coin, chez lui, dans son...
Alors, tu peux être trader pro et être chez toi, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est compliqué parce que quand tu es chez toi, t'as pas l'émulation des autres, t'as pas les oreilles des autres qui vont à un moment capter un truc que t'as laissé passer, que t'as pas vu, que t'as pas entendu, etc. Tu as le fait que tu peux perdre les pédales quand tu es tout seul chez toi, et que tu n'es pas entouré. Moi, je me souviens les premiers gros à-coups qu'on a eus en bourse quand j'étais à la table. Il y avait un vieux de la bourse qui était là, qui était le patron de la table. Et quand il voyait quelqu'un qui commençait à être fébrile, qui commençait à être énervé, il lui disait tu te lèves, tu sors, tu vas faire le tour du pâté de maison, puis tu reviens quand tu seras calmé. Et en fait, tu t'aperçois que si tu restes comme un idiot devant ton écran, tu vas faire des bêtises. Si tu sors un moment et que tu fais le tour du pâté de maison pour te calmer, quand tu reviens, tu fais moins de bêtises. Voilà. Et puis c'est tout l'environnement, c'est le fait que tu es avec d'autres, donc tu vois quelles sont leurs réactions. Quand je te disais tout à l'heure, tu passes un coup de fil et puis tu t'aperçois que tous tes copains dans toutes les sociétés de bourse et dans toutes les banques ont l'ordre de vendre au premier cours. Bah, tu sais que ça y est, c'est bon, c'est fini, le premier cours va être le plus bas. Bon, tout ça, c'est des choses quand tu es isolé chez toi, etc., tu ne sais pas. Donc, non, je pense c'est beaucoup plus facile quand tu es à une table de trading, de faire du trading, que quand tu es tout seul devant ton écran chez toi.
Et alors un jeune qui aime la finance et l'économie, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui?
Bah, qu'il essaie de faire des choses, à mon avis, plus intéressantes, sur lesquelles on reviendra à un moment, parce que là, on est en train de faire un excès. Et donc, rentrer au moment où on fait un excès, c'est pas forcément le bon truc.
C'est la fin de la fête, c'est ça?
Oui, je pense que c'est la fin de la fête. Je pense qu'on n'est pas très très loin de siffler la fin de partie, quoi.
Donc quoi, il y a quoi comme piste? Le private equity?
Oui, ben ça, c'est
La
des choses
gestion
intéressantes. Puis alors,
de...
pour le coup, là aussi, tu peux faire énormément d'argent, hein. Donc, si c'est ça la motivation, oui. Donc, voilà. Et c'est quand même, intellectuellement, et même, c'est quand même plus satisfaisant de permettre à une entreprise de se développer. Plutôt que de faire du trading à la seconde. Ça a plus de sens quand même, enfin, a priori. Donc c'est quand même plus intéressant. Alors après, je veux pas non plus dégoûter. Je pense qu'on peut encore faire du trading, c'est honnêtement, c'est plus la même chose, c'est plus le même métier. Et je te dis, on est en train de faire de tels excès que je pense que la correction va être raide. Voilà. Et donc, en ce moment, ça risque d'être compliqué de commencer dans ce métier. Voilà.
Donc, trouver du sens, faire autre chose, faire différemment et essayer d'être utile autrement.
Oui, et si je te dis, ça n'exclut pas de gagner beaucoup d'argent, mais en faisant quelque chose de plus intéressant, quoi. Alors c'est tout. Enfin, je vois très bien ce qu'on va avoir dans les commentaires. C'est facile de dire que l'argent fait pas le bonheur quand on en a, quoi, en gros. Oui, c'est vrai,
C'est vrai que ça...
mais ça n'empêche que, comme vous allez quand même passer beaucoup de temps à faire votre métier, hein, a priori, vous êtes plus au bureau que chez vous, même. Si c'est pour vous emmerder et faire un truc totalement inutile, ça va vite vous prendre la tête, quoi. Donc faites quelque chose d'utile et pas emmerdant.
Merci
C'est mieux.
Olivier, c'est un plaisir.
Merci Richard.